au-delà du PEPR ICAR, elle s'inscrit dans un programme plus large de séminaires qui s'appelle les rencontres publiques, dont vous voyez le programme des deux dernières années à l'écran. En fait, l'idée de ce séminaire est née de la place très particulière qu'on occupe avec ma collègue Maëlys Nouvellon. En fait, on est toutes les deux docteurs en muséologie et en sciences de l'information et de la communication, et aujourd'hui, on est chercheuse indépendante. Et c'est finalement chercheuse indépendante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne travaille pas du côté de l'université, mais plutôt comme prestataire pour les institutions culturelles ou le ministère de la Culture, par exemple. Et c'est cette place finalement assez particulière à l'interface des établissements, du ministère de la Culture et quand même de l'université dans laquelle on intervient et on enseigne régulièrement, qui nous a donné envie de créer ce pont finalement qui allie les questionnements et les pratiques des professionnels de la culture, une diffusion des recherches académiques et institutionnelles et une veille sur les grands enjeux du secteur culturel. Notre axe d'étude, ce sont les publics des patrimoines, qui est une des spécialités que nous avons avec Maëlys Nouvellon. Donc vous voyez notre programme depuis 2 ans sur la diapo. Plusieurs séances ont porté sur les musées, mais nous intégrons d'autres champs patrimoniaux comme les archives ou les bibliothèques, car finalement nous travaillons sur la conception des publics qui sont à l'œuvre dans les institutions culturelles et beaucoup de questionnements sont transversaux à ces différents secteurs patrimoniaux. En fait, à chaque séance, nous souhaitons imbriquer fortement la conception des politiques culturelles en invitant les professionnels du secteur à présenter leur travail et la réception de l'autre côté des publics, entendue de manière très large, c'est-à-dire que ce soit le sens produit par les publics ou la composition sociale des publics qui visitent les établissements culturels et patrimoniaux. Ainsi, la présentation d'études et de recherches sur les publics réalisées par les chercheurs ou les chercheuses, qu'elles soient indépendantes ou universitaires, ou bien même les étudiants, est finalement le fil rouge de nos séances. Depuis 2 ans, le séminaire est intégré au cours du Master Gestion des Arts et de la Culture de Paris 1 Sorbonne. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'étudiants et d'étudiantes aujourd'hui dans la salle et je leur remercie de leur présence. Alors, le format est d'habitude un peu plus léger. Il est en visio et il dure souvent plutôt autour de 2 heures et non pas une journée entière, pour que les professionnels puissent facilement l'inclure dans leur agenda. Par contre, aujourd'hui, le thème, le rôle social du musée, nous a semblé suffisamment important pour y consacrer une journée entière dans ce bel amphithéâtre. Cette journée est possible, on l'a vu tout à l'heure, grâce au soutien financier et logistique du PEPR ICAR, mais aussi du Master Gestion des Arts et de la Culture de l'Université Panthéon-Sorbonne, et plus nommément pour leur aide et leur coordination pour l'organisation générale. Je remercie Marco Delomo d'Armé, Anaïs Feilleux, Solveig Serre, Hyacinthe Belliot et Marion Brisa, mais aussi Anaïs Reynaud du Musée des Arts et Métiers, qui est également partenaire de la journée, et Loïs Maréchal du Conservatoire National des Arts et Métiers, qui nous a aidés pour l'utilisation de cet amphithéâtre. Et également, je remercie la société de traiteurs qui a réalisé le merveilleux café d'accueil. Je remercie évidemment également tous les intervenantes et les intervenants qui ont accepté de participer aux réunions préparatoires et aux réflexions de cette journée. Je vais les nommer dans peu de temps. Donc le programme est sous vos yeux. Je vais le présenter en revenant sur l'idée du rôle social du musée pour les étudiantes et étudiants, encore une fois, qui ne sont pas des spécialistes du musée. Donc l'idée était aussi de recadrer un peu la journée. Je signale un petit changement de programme. L'intervention de Maëlys Nouvellon et Pauline Massé est annulée car nous n'avons pas eu le temps de présenter les résultats à nos commanditaires. Mais cette communication devrait être présentée prochainement dans un autre cadre. Et nous pourrons vous tenir informés si cela vous intéresse. Nous avons donc déplacé la visite de l'exposition Empreinte Carbone, grâce encore une fois à Anaïs, qui a lieu donc en ce moment au Musée des Arts et Métiers. Elle était prévue en fin de journée et nous avons déplacé la visite juste après la présentation d'Anaïs, pour allier la tête aux pieds et pouvoir comprendre sur pièce les intentions de l'exposition. Donc nous avons choisi de nous intéresser à plusieurs initiatives qui, si elles ont l'air très distinctes au premier abord, participent, en tout cas moi je le pense, d'un même type d'action qui relèverait donc du rôle social des musées, c'est-à-dire finalement que le musée est un instrument au service de la société. Je vais prendre quelques minutes pour revenir sur le concept, mais avant je voudrais quand même dire un mot sur le contexte. Et vous verrez des résonances avec la présentation de Michel Antoine. Parler et s'interroger sur le rôle social pour le musée et finalement des institutions culturelles en général n'est pas anodin à un moment où les coûts budgétaires de la culture et de l'université sont extrêmement fortes et mettent en péril à la fois l'existence et la diversité d'un secteur riche et extrêmement dynamique, mais également met en péril toute la formation de ces futurs professionnels et l'expertise de ces professionnels qui continuent à se nourrir intellectuellement grâce aux recherches réalisées sur le secteur, comme c'est le cas avec cette journée aujourd'hui. Au-delà de ces coupes budgétaires, les attaques politiques contre l'éducation, la recherche scientifique et les institutions culturelles aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump sont très inquiétantes et ne seront pas sans conséquences là-bas et sans doute ici, sur les manières dont on peut enquêter et comprendre le monde qui nous entoure, dont on raconte l'histoire et on en garde la mémoire, sur les manières dont on atteste d'une vérité scientifique, que ce soit avec des instruments de mesure comme on en trouve dans les salles du Musée des Arts et Métiers ou à partir d'archives, de collections muséales, qui vont être les témoins matériels, on l'a dit tout à l'heure, d'un événement, d'un lieu ou d'une vie. Ainsi, si la journée s'intéresse à l'extension du rôle social des musées, elle n'en affirme évidemment pas moins leur importance. Cette journée a donc aussi pour enjeu de penser et de construire des alliances interprofessionnelles entre des secteurs proches, indissociables et indispensables pour la société, ceux de la production scientifique, de la conservation, de l'éducation et de la diffusion des connaissances. Revenons à notre histoire, qui, racontée en quelques minutes, devra prendre certaines autoroutes, vous m'en excuserez, pour mieux circuler sur des petites routes dans la suite de la journée. Voilà, au moment de la création révolutionnaire des musées, leur fonction est de former les artistes et les professionnels et de permettre l'édification du peuple à partir d'objets qui sont considérés dorénavant comme du patrimoine commun et non plus de collections royales et princières ou appartenant à l'Église. Et pendant deux siècles, vont se développer des musées qui élargissent thématiquement la notion de patrimoine. Ces musées vont constituer des collections et lancer des recherches sur ces collections, puis les présenter au public à travers des expositions qu'on n'appelait pas encore tout à fait permanentes. Dans les années 60-70, le musée comme institution connaît une crise où son utilité est interrogée. Plusieurs propositions et initiatives se développent alors. Par exemple, les expositions temporaires qui ont pour enjeu de thématiser les collections pour rompre avec le caractère jugé trop figé des collections permanentes, mais également l'apparition de musées que l'on va qualifier de communautaires, c'est-à-dire qu'à la fois il est inscrit dans un territoire et donc s'adresse à une population particulière, mais en plus il y a l'idée que ce qui est présenté dans ces murs doit servir la population locale. À ce titre, une des initiatives précurseuses est l'Anacostia Neighborhood Museum, dirigée par John Kinnard, dont on peut voir plusieurs photographies en haut et à droite sur la diapositive. Ce musée est une antenne du Smithsonian Institute et est installé dans le quartier de Washington, dont il porte le nom, en 1967, dans un ancien cinéma, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu. Ce musée de voisinage, puisque c'est sa traduction en français, est conçu précisément pour répondre aux besoins d'habitantes noires, défavorisées, en termes de connaissances sur eux-mêmes, comme l'exprime la citation sur la diapo. Nous avons besoin et nous voulons des expositions et des activités sur l'histoire des Noirs, puisque nous en connaissons si peu sur le sujet. Et sur les préoccupations qui les concernent, par exemple, la criminalité et l'incarcération, l'insalubrité des logements avec une exposition très marquante avec l'exposition de rats vivants, ou encore sur l'usage des drogues. Ce musée est également une réponse et une critique du racisme des autres musées. C'est le point 3 des doléances qu'il a sur la présentation que je vous présente à l'écran. Le point numéro 3 des chefs d'accusation énoncés par John Kinnard. Donc, sont-ils incapables, donc les musées, de surmonter non seulement leur ignorance des minorités culturelles, mais leur racisme réel et visible dans ce qu'ils collectionnent, étudient, exposent et dans l'embauche de leur personnel. En France, on va trouver des démarches similaires, que ce soit la mise en place d'expositions sur des sujets locaux, comme l'exprime la citation de Bernard Gilman à propos du musée dauphinois que vous voyez sur la diapo, où le principe est qu'il ne s'agit pas d'un musée d'art et de tradition populaire, mais un lieu où nous essaierons de situer dans leur contexte historique les problèmes actuels de la région. Ou encore, l'exemple emblématique du premier écomusée du Creusot en 1974, créé pour permettre aux habitants de se réapproprier un territoire en crise, notamment économique. C'est ce qu'on va appeler la nouvelle muséologie ou l'écomuséologie, portée particulièrement en France par Hugues de Varine, mais également Georges-Henri Rivière, le premier directeur du Musée national des arts et traditions populaires. Vont se multiplier des expériences muséologiques qui vont prendre différents noms, nouvelle muséologie, musée participatif, écomuséologie, muséologie sociale, muséologie critique, muséologie de la rupture, c'est-à-dire finalement des expérimentations qui ont pour but de réinventer l'institution muséale. Cette histoire en France, elle est assez bien documentée et vous pouvez retrouver les grandes étapes de cette histoire sur le site Muséotchèque et dans un certain nombre d'ouvrages dont je ne présente que quelques couvertures à l'écran, notamment Vague, une anthologie de la nouvelle muséologie qui regroupe toutes ces réflexions à la fois théoriques et pratiques au tournant des années 70 jusqu'aux années 90 et qui s'appuie aussi sur des conceptions de projets muséologiques développés aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, sur le continent africain et en Europe. On trouve également l'ouvrage « Le musée participatif, l'ambition des écomusées » paru en 2018, et qui est la première synthèse historique et conceptuelle uniquement consacrée à la muséologie participative, avec de nombreuses expériences décrites à la fois théoriques et pratiques. Et enfin, on peut citer par exemple le livre publié plus récemment sous la direction de François Mérès et Fabien Van Gert à propos de Jacques Hénard et ses équipes au musée d'ethnographie qui pratiquaient une muséologie de rupture. Cette attention aux sujets qui nous touchent et se focalise donc depuis plusieurs années sur les crises climatiques et écologiques avec lesquels nous devons vivre et à certains endroits même survivre. Et c'est ce que nous verrons ce matin avec la présentation de la conception de l'exposition « Empreinte carbone » avec Anaïs Renaud et qui la remettra, je pense, dans un ensemble plus vaste d'expositions sur le sujet et d'initiatives dans les pratiques professionnelles elles-mêmes. Par exemple, aujourd'hui la dimension écologique apparaît comme un des critères de notation des marchés publics et c'est comme ça aussi que ce type de sujet s'inscrit dans les pratiques professionnelles. On l'a vu, la critique de la représentation dans les musées, c'est-à-dire finalement qui est représenté et comment, existe dans des textes anciens, comme celui de John Kinnard que je vous ai présenté, mais elle prend une forme plus contemporaine ici en France depuis plusieurs années. Surtout, elle apparaît dans des musées moins habitués à cette réflexivité sur ces méthodes et sur ces sujets, comme c'est le cas dans les musées de Beaux-Arts. Par exemple, dans le catalogue de l'exposition « La Musée », qui est présentée actuellement au musée Sainte-Croix de Poitiers, qui vient à peine d'ouvrir, on trouve cette attention aux œuvres présentées dans les collections en ce qu'elles façonnent les imaginaires. J'ai reporté une grande citation de Camille Belvez et Manon Le Caplin, les deux conservatrices commissaires de l'exposition « La Musée ». Et on voit qu'elle s'interroge sur la manière, sur les devoirs tacites qui président à l'acquisition des collections de musées. elles décrivent trois règles tacites à ces acquisitions que sont la modération, la prudence et la perspicacité, et se demandent s'il ne faudrait pas ajouter une quatrième règle ou une quatrième attention qui serait le rôle social du musée en tant que producteur d'imaginaire et de représentation. Et si l'enjeu de l'exposition est la présence des femmes artistes dans la création artistique, elles affirment également que le musée a un devoir éthique de représentation des catégories de population minorisées et qu'il doit s'interroger sur sa participation séculaire aux injustices en tout genre. Les approches critiques de l'art, comme dans cette exposition, sont soutenues par des travaux d'historiens et d'historiennes féministes de l'art assez anciens, comme ceux de Rosika Parker et Griselda Pollock, qui viennent enfin, en tout cas pour le livre présenté à l'écran, d'être traduits en français, mais dont la date de publication est de 1981, mais également par des travaux de jeunes historiennes de l'art, par exemple l'association FAR, Femmes Artistes en Réseau, Documentation et Archives des Sororités Artistiques en France, et un réseau particulièrement actif sur cette question actuellement. Le programme de cet après-midi s'ancre donc dans des approches réflexives, des rapports de pouvoir qui peuvent se jouer dans les musées, avec les présentations de Marine Kissiel sur son exposition sur la masculinisation de la garde-robe qui aura lieu au musée Galliera, de Raphaël Beuris sur la nouvelle exposition semi-permanente au MUCEM et qui propose de s'interroger sur les imaginaires coloniaux de la Méditerranée produits par l'histoire de l'art et l'ethnologie. Et enfin, Hortense Bellotte nous parlera de la création de son spectacle Escape Game au musée d'Orsay, qui propose une lecture queer et féministe de l'art dont j'ai pu étudier la réception et qui sera la dernière partie du programme. Je vous souhaite une bonne journée et je laisse la parole à Anaïs.